C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des mastercards, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de vous emmener au nombril du monde. Où va se dérouler une grande inauguration du jardin sonore de Pougny-Hérisson. Alors ça se fera en présence de délégations venant de partout sur la Terre, de tous les nombrils du monde. Avec la conteuse Anne-Gaëlle Goduchaud, nous avons traversé la Loire et pris la route. Pas beaucoup d'indications pour y aller à ce Pougny-Hérisson, mais bon, tous les chemins mènent au nombril, non ?
Chapelle Saint-Laurent, ça te dit? Tu penses qu'on s'approche là?
On doit pas être très très loin.
Parthenay, Montcoutan.
Je sens déjà quelques ondes.
Toi, tu sens des ondes,
quelques
toi.
Quelques ondes.
C'est pas pour dire, mais. Il paraît qu'il y a des nombrils dans plein d'endroits du monde. Tu crois qu'ils seront là, toutes les délégations là? Ça fait un sacré paquet de diplomates.
Ils ont quand même invité très très large, quoi. Très 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 large.
Île de Pâques, il y a un endroit où Vanuatu, j'ai vu, le mont Ararat, et puis Sinaï.
Tu t'imagines les défraiements, quoi. On m'a laissé dire que Pougny-Hérisson réglait tous les frais d'avion, d'hôtellerie, de restauration. Non, c'est un budget énorme, c'est colossal, un truc comme ça, c'est colossal.
Tu vois. Attends, c'est
tous les pots de vin, enfin, tu vois, des pots de vin, t'imagines bien, faire venir des représentants de tous ces pays-là, il y a eu des tractations, des accords.
Des pots de vin, tu dis, mais...
Tu traites avec le Koweït, tu vois, quand tu traites avec Israël, quand tu traites... Comment tu crois que ça se passe? Non, c'est un budget énorme, c'est colossal.
Nous arrivons dans le village de Pougny-Hérisson. Son nombril, sa pierre branlante, son château, le musée Jarry et Ferguson, le laboratoire d'ombilicologie. Autour d'un repas, les organisateurs discutent, il y a plein de gens, Olivier, Aurélie, Vincent, Soisic, Émilie, Rachel, Marie, Alexandra, tous ombilicologues distingués. Et puis, il y a aussi Sophie Tchenko, qui est venue directement de la grande et éternelle Russie. Et puis aussi un singulier personnage bien connu de nos services.
Est-ce que tu pourrais me rappeler ton nom, s'il te plaît? Excuse-moi.
Hugues-Claude Calix-Louis-Gabriel Leder de Berlay-Vendrenne de Nigremont.
I'm so impressed.
Ah, bah enfin.
C'est génial. Redis-le plus lentement.
Hugues-Claude Calix-Louis-Gabriel Leder de Berlay-Vendrenne de Nigremont. Voilà.
C'est génial. J'adore.
Justement, cette famille, elle remonte à...
Aux Françaliens, aux croisés, on ne sait pas exactement. C'est le principe de ces familles. On ne sait pas quand ça remonte. C'est l'avantage. Les mauvaises langues disent que c'est un titre noblesse qui a été acheté au moment du XVIIIe siècle. Mais on ne sait pas. Il y a une étude qui a prouvé que nous avons deux fois moins d'ancêtres que les non-nobles.
Bah, forcément.
Puisque nous avons des ancêtres communs dans les diverses branches de la famille.
Alors, tout le monde est sur le pied de guerre depuis 15 jours. Enfin, ça, c'est
oui,
dans ces quatre bonnes semaines.
Cette semaine, beaucoup. Un petit mois, ça commence à...
La sous-préfecture nous a quand même convoqués. Bah, parce qu'ils avaient reçu la liste des nombrils du monde. Donc, ils ont vu Arabie Saoudite, Syrie, Irak. Et là, d'un seul coup, ça les a fait un peu flipper.
Ils voulaient savoir s'ils allaient venir. Finalement.
Voilà. Et du coup... Et du coup, on est allé de manière très sympathique et agréable avec eux en leur disant qu'il fallait avoir le décalage de la chose pour le secrétaire général, à un moment donné, nous dit, après avoir toutes ces explications, nous dit, mais si jamais il y a quelqu'un qui vient, ne vous inquiétez pas, on vous préviendra.
Mais bon. Peut-être que Murat Kumlikov va venir. Il s'occupe de la Adige Respublika. Et il attend la décision de Poutine. Peut-être lui sera là tout à l'heure. Peut-être.
Murat Kumlikov. Ça pue quand même le croisement entre le Syrien et le Russe.
C'est parce que les Adigés, c'est l'ancienne city. La city, c'est pas la city de Londres, hein, c'est la city S-C-Y-T-H-I-E, qui est pas loin de Krasnodar, pas loin de la mer Noire. Et de l'autre côté, c'est la Turquie. Alors, Murat Kumlikov.
Ah, c'est ça. Il est né avec un punch à côté de la frontière.
Da.
C'est ça. Il partage le caviar. Mmh.
Et la vodka, surtout la vodka.
Mais au fait, combien de personnes pour gérer le nombril ?
En pleine saison, c'est 8 salariés, plus Yannick et moi en co-direction.
Pleine saison, c'est-à-dire
là actuellement,
là,
si tu veux,
entre mars et septembre.
Ouais,
septembre-octobre. Voilà. Parce qu'on accueille aussi des scolaires et, ouais. Et l'accueil des scolaires commence au mois de mars et va jusqu'aux vacances de la Toussaint en fait.
D'accord.
Donc là, on a déjà reçu pas mal, hein, on a fait quoi, 4-5 jours, 4-5 journées, je crois. Ouais. On a eu jusqu'à une centaine d'enfants dans le jardin. Par jour, donc bon, c'est chouette.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent visiter, ils viennent
Ouais, travailler l'imaginaire. Ils découvrent le parcours sonore. On a des parcours sonores adaptés pour chaque cycle, en fait, adaptés pour les enfants. Donc, ils sont accompagnés dans la découverte du parcours sonore. Et puis, et l'après-midi, on a des ateliers. Donc, on leur fait, voilà, il y a un atelier sur les petites créatures, sur les monstres. Et en fait, eux fabriquent leurs monstres, inventent leurs monstres.
Génial.
Il y a un herbier de conte aussi. Fin...
Le nombril a eu un coup de mou à un moment, un creux. On s'est même demandé si ça n'allait pas s'arrêter, et puis finalement...
Et puis après, à partir de 2015, on s'est remis autour de la table avec tous les partenaires publics. Et donc on a repositionné la saison du nombril, on a reposé le jardin, on a reposé le projet. Et depuis 3 ans, on a une équipe qui est vraiment... qui est à fond dans le projet, qui... Là, on va finir notre triennale 2015-2016-2017 et on est... Enfin, les indicateurs sont plutôt au beau fixe. On a retrouvé une santé financière, on a retrouvé une vraie dynamique d'équipe, on a retrouvé notre public. En termes de visiteurs, on est aujourd'hui sur une bonne fréquentation aussi. Le son et lumière de l'année dernière qui a été le remplacement aussi du festival à cartonner. Donc, ça va bien. Plutôt très bien.
Le projet dans sa globalité, c'est quoi en fait? Le projet de Pounirisson pour les années à venir, enfin, on peut en dire.
Bah, c'est toujours la question de la mise en valeur du conte et de l'oralité, mais sous différents angles, à la fois dans un aspect pédagogique sur l'accueil accueil des enfants, quelles que soient leurs origines. C'est un vrai lieu de développement touristique sur un territoire rural ancré et pas évident à dynamiser. Et puis d'être un vrai lieu de vie aussi pour le territoire, pour les bénévoles, pour tous les gens qui gravitent autour. Et puis dans les années à venir aussi, c'est de devenir un lieu ressource et référence sur l'accompagnement professionnel des conteurs. Donc là, on est en train de mettre un certain nombre de dispositifs en place pour structurer aussi cette profession ou cette discipline qui est malheureusement un peu délaissée.
Je pense que c'est bien que tu sois maître de
cérémonie. Master of Ceremonies, Master. C'est un peu que je sais un peu faire quand même. Oui, c'est ça, faut faire les lieux et que tu t'envoies le même ordre technique si vous chantez en micro, si je le sens.
Ouais, d'accord.
Et puis, il y a le jardin.
Ouais, jardin sonore, il y a une trentaine de points d'écoute dans le jardin. Et là, tout le parcours sonore, on l'a justement retravaillé et revisité pour cette année. Donc pour qu'il y ait à la fois un cheminement dans tout le jardin et puis qu'il y ait des espaces particuliers. J'ai plus les thématiques en tête, mais il y en a autour du parcours des grands récits religieux.
Voyage.
Un autour du voyage, un autour de la langue.
La langue, voilà. Ouais. Des contes pour les enfants, contes et comptines pour les enfants aussi.
D'ailleurs, je veux dire,
visite de la commission qui pourrait nous donner un label jardin remarquable. C'est un label qui est délivré par le ministère de la Culture et qui est plutôt... Enfin, qui a un label qui est plutôt vachement intéressant. Hein. Donc là, ils viennent visiter en commission jeudi.
Et vous, Calixte, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives qui sont somme toute très populaires ?
Il y a un travail admirable qui est fait par les gens de ce pays pour mettre en valeur à la fois le patrimoine, la mémoire collective, l'art du conte, et puis l'art végétal qui est développé ici, dans des conditions tout à fait propices par un climat particulier qu'on trouve nulle part ailleurs, dans cette zone de l'Europe.
Il y a un microclimat.
Évidemment, chacun le dit. Ce qui explique l'afflux de touristes britanniques qui arrivent ici, avec cette envie de retrouver à la fois le territoire qui est leur au départ, et puis en même temps, ce petit plus qu'apportent les moussons.
Alors là, nous suivons Alexandra. Alexandra qui s'occupe de...
La communication et de la production également à l'association de Nombril du Monde.
C'est bien. Alors vous nous emmenez où là, Alexandra, au jardin ?
Eh bien, on traverse nos locaux.
D'accord,
donc dans ces cas-là, je vais vous faire un tour du propriétaire comme ça,
marche,
que vous
ça
ayez
marche.
Vos propres repères. Vous voilà dans le laboratoire d'Ombil Écologie. Voilà le laboratoire qui était dédié à John Barney Ferguson et Robert Jarry. C'était leur lieu de recherche, en fait, sur cette science qui étudie ce que les nombrils ont dans le ventre. Donc, vous pouvez y admirer le globe terrestre avec les différents nombrils du monde. Et on peut y voir une spécificité aussi, c'est qu'en fait, le plancher est incliné. Il est incliné, en fait, en direction de l'étoile polaire.
Très bien. Mais alors, comment ont été déterminés donc, ces lieux très précis de nombril du monde ? Parce que Pougny-Risson était, à ma connaissance, le seul nombril, mais il y en aurait eu d'autres ?
Ben, apparemment, il y en aurait eu d'autres. Tout ça tient des textes fondateurs des différentes civilisations. Et donc, en fait, il y a des lieux plus ou moins stratégiques qui, aujourd'hui, sont des lieux de ferveur religieuse, à vrai dire, qui ont été identifiés nombril du monde dans les différentes religions qui existent aujourd'hui.
C'est un laboratoire très fou. Il y a des objets tout à fait insolites, des ampoules vigreuses, des balances infernales.
C'est la même qu'une balance à peser, voilà, le minerai de compte.
Balance à peser le minerai.
Mm-hmm.
Donc vous avez en fait du minerai qui arrive de différents nombrils et qui sont pesés ici. Comment se...
Non, en fait, la légende veut que toutes les histoires seraient nées du granit, en fait. Donc on a cherché, enfin, les pères de Nombril Écologie, John Barney Ferguson et Robert Jarry, ont cherché à faire parler le minerai de compte. Et donc, c'est aussi les toutes petites machines que vous allez pouvoir voir dans l'autre espace muséifié, qui est la Grange à Jarry, et pour lequel il y a plein de machines, dont une énorme, et qui justement cherchait à faire tarabuster le caillou et donc à faire sortir les histoires.
Chercher à faire tarabusquer le caillou ?
Tarabuster, pardon.
Tarabuster.
Ma langue a fourché.
Bon, très bien. Alors, ben, je vous suis.
Donc là, je vous présente les bureaux du PEDA. Donc, c'est là où se poste Rachel et nos deux ombilicologues saisonnières également qui assureront aussi les visites et l'accueil du public et l'accueil pédagogique.
Alors, quand vous accueillez des classes, localement, il n'y a pas de classes qui viennent d'autres nombrils. Pas pour l'instant.
Non, parce que actuellement, on est sur un public francophone. Voilà, et en fait, on est le seul nombril du monde en France.
C'est ça.
Donc, en fait, il n'y a aucun risque là-dessus.
Il y a déjà beaucoup à faire avec le territoire national dans un premier temps.
En effet. Venez par ici. J'en profite. Voilà, voici une de nos ombilicologues, Soizic, que vous avez rencontrée tout à l'heure.
Et vous avez un tablier de travail d'ombilicologue.
Tout à fait, le tablier de travail du Nombril du Monde pour nous repérer en tant qu'ombilicologue sur le site.
Est-ce que ce travail est salissant ?
Ce travail n'est pas trop salissant. Parfois difficile de récupérer le minerai au fond de la mine, donc parfois c'est un travail de forçat, mais c'est un minerai qui est rare et qui est cher du coup, donc on y met tout notre savoir-faire pour sortir ce minerai.
Vous êtes plusieurs à creuser ?
On est plusieurs à creuser, tout à fait, ouais, ouais. On est au moins deux, trois et puis parfois plus.
S'il fallait chiffrer ça en termes de tonnage, on arrive maintenant dans des chiffres importants ?
Alors, c'est très difficile puisque le minerai de compte n'indique pas un poids, il indique une direction. Donc, il ne pèse rien, en fait, le minerai de compte.
D'accord.
Voilà, il indique la direction d'un nombril céleste qui est l'étoile polaire.
Très bien. Et les autres nombrils donc, de la planète seraient dirigés aussi vers le céleste ?
Alors, on ne connaît pas tous les emplacements des nombrils. On en connaît certains. Et il y a des choses qu'on ne sait pas encore. On sait que celui-ci, c'est vraiment l'épicentre. Donc, lui, il est relié au nombril céleste. Mais
il y a une équipe de recherche. Alors, c'est sur Pougne et sur Hérisson. Il y a une équipe de recherche, justement, sur tous ces phénomènes.
Oui, voilà. Bah, c'est les ombilicologues modernes qui ont repris le travail de John Barney Ferguson et Robert Jarry à l'époque.
Que les choses ne se perdent pas, surtout. Hein. Donc, ben, on va continuer. Merci beaucoup, Soizic. À plus tard.
Le jardin reprend vie avec ses coins et recoins. Le jardin d'amour, le coin de Pic-Époc, l'arbre magnétique, le Spoutnik, le lieu des tubulures. C'est l'heure de la sieste. Quel goût du chaud a l'air particulièrement intéressé par cette histoire de sieste.
Ça, c'est quoi ?
Alors, c'est le jardin qui vient de prendre vie.
Le jardin commence à prendre vie.
Et qui va vous inviter à la sieste.
Tous ensemble, pour
lever,
relâcher, faire la part belle à la paresse.
On se dirige vers la source
sonore. Rien branler, peigner la girafe, faire la sieste, la tarte aux prunes, tout seul, à deux, à trois, comme vous voulez. Campagnard de surface, des profondeurs, enraciné, déraciné. Campagnard de passage, en transit, d'ici et d'ailleurs, prenez place dans notre pédalo radiophonique pour une heure environ.
Ah, je crois que les gares et les aéroports ont beaucoup de leçons à apprendre là. Musique relaxante.
Il y a des heures où on est invité à la sieste ou
c'est le début.
C'est ça.
C'est le début de l'après-midi en fait. Le 14h-15h est réservé à la sieste.
D'accord.
Après, les histoires démarrent. Et en fait, elles sont ponctuées également de morceaux de concert détonnants.
D'accord.
Donc là, qui ont été mixés par Camille Rocailleux. Qui a beaucoup travaillé aussi avec Yannick et qui a également réalisé toute la composition musicale du Mystère de Saint-Poux, le son et lumière qui a eu lieu l'été dernier. C'est un très très bon musicien et c'est un super percussionniste également. Donc c'est bien parce qu'au final ça permet aussi de digérer également ce qu'on vient d'entendre, de s'imprégner aussi de l'histoire, de laisser un temps au cerveau pour se reposer et puis après de renchaîner aussi sur autre chose.
Donc c'est ça, jusqu'à 15h en gros les gens sont invités à
la benaiserie. Ouais,
d'accord.
Totalement.
La benaiserie.
Exactement, benaisé.
Benaisé, ici benaise.
Vaquer à ne rien faire.
Bien sûr, bien sûr. Non, parce que là, si vous voulez, en plus du jardin, l'idée, c'est d'apprendre une langue. Hein. Voilà, on vient ici avec une langue et on repart avec deux langues.
Je vous invite à passer par ici.
Alors, voilà, c'est très beau. Des petites dalles au sol. Sur l'herbe magnifiquement tondue par Vincent. Et là, on arrive dans un endroit qui s'appelle...
Les cabanes à histoire.
Cabanes à histoire. Oh là là, c'est le rêve, un rêve d'enfant. Des vieilles portes, des petites cabanes où on peut se cacher.
Alors celle-ci, on ne pourra pas s'y cacher, puisqu'il y a une clé qui la ferme, qui empêche son accès. Par contre, on a le droit de regarder par le trou de la serrure.
Alors, je regarde moi-même. Oui, oui, donc il y a des choses. Oh là 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 là.
Devinez à quelle source elle se rattache.
Oh là 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 là. Je crois que c'est des histoires de barbe bleue. Mais bon, j'en dirai pas plus. Alors là. Oui. Et là, celle-ci, on pourra y rentrer. Je vais y rentrer.
Vous avez tout à fait le droit.
J'ai le droit. Des petites maisons imaginaires avec un décor tout à fait particulier à l'intérieur, des oiseaux en papier. Très bien. Je pense que les enfants vont beaucoup se plaire dans ce lieu-là. Voilà. Alors là, l'idée, simplement, c'est un endroit de jeu pour des...
Exactement. Oui. On va y retrouver Mikado géant, le Chamboultou. On y retrouve également des caisses à livres. Donc, tout à chacun est invité à prendre ses aises dans la caisse à pommes qui l'attend et à choisir un livre et se plonger dans une histoire.
La traversée des grands récits. Alors, je lis. Les histoires de Moïse, de Jésus, de Mahomet, de Bouddha, de Lao Tse ont été à l'origine de grandes civilisations, de grandes spiritualités, de grandes religions. Elles ont été confrontées à des tumultes divers et variés. Elles ont toutes leur place ici, dans ce jardin où sont nées les histoires. Alors, là, il va y avoir un décollage quasi immédiat. Nous sommes devant une... fusée qui est peut-être destinée à rejoindre d'autres univers, comment ça?
Ah, c'est le Spoutnik en soi. C'est un élément assez caractéristique du jardin, tel l'arbre mort, puisqu'on est vraiment sur du métal, un petit peu rouillé en soi. Voilà, et bien, on va s'approcher du petit panneau qui va tout nous dire là-dessus.
Alors, le Spoutnik, dans son jardin de... que je ne peux pas lire, parce que c'était dans une écriture cyrillique. Banlieue de Mokba, Thomas Ferguson aménagea ce labo ombiligastronomique à partir d'une capsule spatiale réformée. Il y mena des recherches autour du lien entre les étoiles, les constellations et les points d'acupuncture de la Terre que sont les nombrils. Ce laboratoire a été rapatrié par la société d'ombilicologie.
Il avait sa place, en fait, dans le jardin, en soi. Et donc, en fait, aujourd'hui, on en a fait également un espace, on l'a dédié également aux différents nombrils du monde. Célébration, cérémonie auxquelles on est invité aujourd'hui. Tout un chacun est invité aujourd'hui.
Alors donc, quand on dit tout un chacun, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de délégations officielles. Il y a eu des invitations qui ont été lancées, parce que je vois donc des nombrils du mont Ararat, d'autres de la vallée du Nil, certains viendraient de la Kaaba. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'invitations d'envoyer à des ambassadeurs, je pense.
Exactement, il y en a eu 26 au total. Donc 26 recensés, 26 invitations, quelques excusés, mais aussi des présents. On est impatients de les voir en action et de les voir défiler. Et on aimerait inscrire cette journée comme journée mondiale, la faire vraiment reconnaître pour que chaque nombril puisse, si on ne se réunit pas, au moins le célèbre dans leur nombril, quoi.
C'est ça. À partir de ce jour d'aujourd'hui, il va pouvoir y avoir un certain nombre d'événements aussi commémoratifs, vraisemblablement.
Exactement.
Sur les autres nombrils mondiaux.
L'objectif, c'est que le 1er avril, s'inscrive dans le calendrier et donc que ce soit célébré en fait chacun des nombrils du monde.
Nous sommes donc le 1er avril 2017, date historique, fondatrice en quelque sorte, d'un événement peu commun. La réunification mondiale, alors que l'Europe a quelques difficultés à se construire, là, des sages, des savants, la science a réussi cette union entre les nombrils et ça, vraiment, ça doit faire chaud au cœur.
Bah, ça nous paraissait d'autant plus important, en fait, justement, dans le contexte d'aujourd'hui, que de réaliser, au moins d'initier ce rassemblement.
Très bien, Alexandra. On est un petit peu à la sortie, finalement. Ah, nous arrivons devant une pierre...
Eh bien, en fait, vous vous trouvez exactement à la tête du géant. D'où l'oreille. D'où le sonotone qui se raccroche à son oreille.
D'accord.
Et donc, en fait, il se dit que le géant aurait tellement mangé d'histoire qu'il se serait endormi. Mmh. et qu'il ne se serait jamais réveillé. Et on peut y retrouver sa tête aujourd'hui ici, et son nombril, qu'on va retrouver un peu plus tard à la chapelle. Tenez, ce sera par là.
Ce qu'on entend là derrière nous, la musique et la femme qui chante, c'est l'univers sonore du jardin de Pougnérisson en ce début d'après-midi. Et puis là, une cascade zen.
Sympa, non hein?
Tout un univers sonore, d'histoire, de texte. Voilà.
Nous déambulons. D'anciens capiers, des clapiers à lapins qui ont été revisités. Ouais. Pour des démonstrations d'objets insolites. Démonstrations d'objets insolites, métalliques pour l'essentiel.
C'est la petite cahute qui se trouve sur la droite. Ah oui, il me semblait bien qu'il y en avait, mais je ne savais plus. Pas de souci.
Voilà, très bien.
Voici donc les jeux d'Émile et Louisette, toujours.
Hélas, ce restaurant proposait seulement une soirée un peu plus tard.
Oui, parce qu'on a acheté
le premier samedi du mois à l'occasion de
Je rencontre des promeneurs.
Vous avez acheté des petits souvenirs.
Oui.
Vous ramenez quoi alors?
Alors, le village toxique.
Oui.
Et puis le nombril du monde, l'histoire du nombril du monde. En fait.
C'est ça. Pour y voir un petit peu plus clair dans cette légende où il y a beaucoup de choses. Et...
Voilà. Ouais. Et c'est vrai que le village toxique, j'en ai entendu parler il y a déjà plusieurs années. Et je suis très heureuse de trouver la BD ici. Ouais. Et oui, d'autant plus que, comme on disait avec la dame qui était à l'accueil, là, l'histoire se répète, à Bure notamment, et puis dans d'autres zones à défendre.
D'accord.
Ah ouais. On est très heureux d'être ici.
Ouais. Bon, très bien. Alors, bonne visite.
Oui, merci.
On est entre nous.
C'est vrai.
Voilà. Vous êtes
Julie Desbois, journaliste au Courrier de l'Ouest.
Ah ben, c'est parfait. Bonjour, Julie.
Bonjour. Voilà. Et vous êtes?
Et moi, je suis Charles Baudin. Je travaille à la compagnie La Lune Rousse et nous faisons des émissions sur le thème du conte, des conteurs et ceux qui travaillent pour tous ces conteurs.
Voilà. D'accord.
Dont Alexandre.
Merci.
De ce qu'on a terminé la visite par la grange, c'est la première fois que tu viens au jardin.
Oui, c'est la première fois.
D'accord. Donc on vient de se faire un petit peu le tour du jardin, mais je pourrais le refaire avec toi.
Ça marche.
Et on va aller voir les petites machines à tarabuster le minerai de Conto. Et je t'expliquerai un petit peu tout ça, je vais te donner des détails.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
J'ai laissé Angel sur un transat et me voici arrivé dans un très drôle d'endroit avec de très drôles de machines.
Il y a la pierre brûlante et il y a le crucifix vibreur. J'ai dit que ce nombril du monde, il est très érotique comme j'aime les choses érotiques, que ça fait partie de la vie, c'est intrinsèque à l'être humain que sans érotisme, il n'y aurait pas la perpétuation du peuple. Et ça, c'est bien.
Sophie Schenko, réappuyez un petit instant sur...
J'ai fait vibrer les crucifix, écoutez bien. Et qu'est-ce que ça fait, la vibration sur les cailloux de Comte ?
C'est pour mieux les étourdir, en fait.
Ça étourdit les cailloux, le caillou du Comte, et ça fait proliférer l'histoire.
Exactement.
Je crois que je vais étourdir encore une fois. Oh, et une fois qu'ils sont étourdis, est-ce que c'est comme ça, après, ils se retrouvent à être bottés, bottés les cailloux ?
Oui.
Alors, on étourdit, et on botte.
À la botte.
Impressionnant. Donc là, c'est du minerai pur, là, je pense.
Oui, bien sûr. Hein. C'est du granit.
C'est faire du sol.
Il n'y a pas à se trouver.
Il a cherché partout, lui. Mais la mine, elle est de tous les nombrils du monde, pas qu'ici.
Ah, ça, c'est important. Parce que là, il y a un très fort gisement, on le sait, à Pougnérisson, hein, de minerai. Mais est-ce que les autres lieux, les autres nombrils mondiaux sont pourvus ?
Il resterait à vérifier. Je pense qu'on n'a pas trop de certitude là-dessus pour quelques lieux. Le nôtre est le plus prolifique à ma connaissance.
Très, très riche.
J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces cailloux qui est dans un bocal avec un liquide étrange.
Vous n'avez pas dîné ?
Non.
On le noie.
Vous noyez les cailloux, mais là, je crois qu'il n'y a pas assez d'eau pour noyer les cailloux.
Aïe, 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 aïe.
Si c'est de l'eau de vie, comme chez nous, de vodka, il y a quelqu'un qui a mis la paille, là, à travers les grillages, pour siper là, et prendre la vodka.
Ah,
et du coup, les cailloux ne peuvent pas se noyer. Ils trompotent légèrement dans le bocal, de liquide.
Oui, alors moi, je pense... Et Alexandra, il faudrait absolument le signaler très rapidement à l'équipe scientifique, je pense. Il manque vraisemblablement, suite à une très fine observation de Sophie Schenko, du liquide de trempage du minerai. Hein.
Bah, je ne sais quoi vous dire, mais
j'ai vu des voyants s'allumer.
Je vais tout de suite le signaler, en tout cas, à nos ombilicologues.
Si Angel coupe du chaud.
Oui, oui.
Je suis un peu inquiète pour Charles-Cécile, parce que, soumis sans doute à la radiation des pierres de Comte, il semble être contaminé par une forme sévère d'historiotite aiguë. Espérons que ça ne lui soit pas fatal. Il raconte des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, il n'est pas le seul, visiblement.
Les enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. En knickerbocker ou en robe blanche, le dimanche les enfants s'ennuient. Que ce soit promenade ou tatine, pâtissier pas plus que les bois n'auront de succès. Gamins et gamines sont plus tristes que maman ne croit. Vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi. Car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin. Y a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. Vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi. Car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. Les parents s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les parents s'ennuient avec leur faux col, leur lorgnon et leur barbe blanche, le dimanche des tables en nuit. Viennent, viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit.
La visite, moi je pense que je l'ai déjà faite, mais c'est toujours avec plaisir de la refaire.
Qu'est-ce que vous aimez dans un lieu comme ça? Qu'est-ce qui vous fait plaisir de retrouver à chaque fois les gens, les choses, les idées un petit peu farfelues? Qu'est-ce qui vous intéresse?
Oui, les idées farfelues, c'est très...
C'est très réjouissant.
Oui. Ça fait plaisir. Puis j'aime bien aussi voir les nouvelles plantes, les nouvelles plantations, tout ça et tout du jardin. D'accord. Voilà, c'est ce qui est bien, c'est que oui, il y a la nature, il y a les histoires. Je me suis arrêtée tout un moment sur un banc à écouter d'excellents morceaux de musique. Et...
Ah, vous voyez que vous avez bien fait de venir un petit peu en avance.
Oui, en fait, j'étais très contente. Non seulement j'étais toute seule, j'ai pas réussi à emmener mon mari. Je crois que ça, il aurait été très très vexé de. Ouais, du retard, parce que je dis, dépêche-toi, moi, je veux partir, pas trop tard.
Comment sont les hommes?
Ah oui, c'est incroyable. C'est finalement, il m'a dit, ben non, je viens pas. Et il a bien fait, parce que j'étais toute seule dans le jardin, j'ai écouté les histoires.
Vous lui raconterez, comme ça, il viendra.
Ouais, il connaît un petit peu, mais bon, il est très... C'est plutôt un scientifique.
C'est scientifique, oui. Ça tombe bien, parce que là, c'est un, quand même un haut lieu de la découverte scientifique.
Oui, c'est vrai.
Ah, bah, vous avez vu
des poissons d'avril, là-bas.
Le Spoutnik, vous avez vu les machines dans la salle d'à côté.
Il devrait être intéressé puisqu'il communique avec la navette spatiale. Il reçoit des images, ça devrait l'intéresser. Sauf que là, c'est plus de l'imaginaire. Voilà, tout est dans l'imagination. Lui, c'est plutôt dans le concret. Voilà. Donc.
Mais souvent, ça va ensemble. Vous savez, l'imagination et le pragmatisme, ça va assez bien. Ça donne de bons résultats.
Oui.
Il faut des équipes un petit peu plus
régulières. Voilà. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr. Après, il y a des connexions.
Alors, on va s'intéresser à Robert Jarry, par ici. Donc, de ce côté, on avait le scientifique, et de ce côté ici, c'était vraiment le faiseux. Lui, ce qu'il aimait, c'était... c'est un forgeron, à la base. C'était le forgeron du village, Robert Jarry. Donc, lui, il aimait créer. Et ici, pour essayer de comprendre le minerai de Conte, et surtout de faire sortir les histoires et de les faire partager à tout le monde, ils ont décidé de construire. Donc, John Barney les dessinait et Robert Jarry les mettait en action, de construire une machine, peut-être que certains connaissent le terme, c'est une machine à tarabuster, tout à fait. Alors que veut dire tarabuster? Titiller, enquiquiner, secouer, malmener. Et donc voilà une des premières machines à tarabuster. Alors, que peut-on observer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux ou aux oreilles? Rien. Donc, effectivement, rien ne sort de cette machine. Elle fonctionne, mais elle ne marche pas. Robert Jarry et John Barney Ferguson n'arrivent pas à faire sortir les histoires du minerai de Conte. Alors, les recherches vont durer un temps. John Barney, lui, il a aussi écrit une thèse, The Nombril, Why All, le nombril, pourquoi, comment, et il va essayer de répondre aux différentes questions de l'apparition du minerai de Conte, du Big Bang mythologique, de l'apparition aussi des nombrils du monde un petit peu partout dans le monde. Il y en a à peu près une trentaine, mais peut-être que certains, on ne les a pas encore découverts, et peut-être qu'encore aujourd'hui, certains apparaissent. Et il s'est même posé la question, peut-être, que les nombrils étaient interconnectés entre eux. Alors ça, une partie de cette histoire reste un mystère. On en apprendra peut-être un peu plus loin. Ces recherches se sont arrêtées net, coupées court, à cause d'un événement qui a eu lieu en 1958.
Vous êtes du coin ?
Je suis un habitant de Pouniresson. Vous ne le répétez pas.
D'accord. Vous y êtes né ?
Non. On est venu ici parce qu'il y avait le nombril du monde.
C'est vrai ?
Ouais. Et on s'est dit que c'était un lieu super. Ce qui est vrai. On peut le constater encore aujourd'hui.
Est-ce que vous vous extrayez vous-même du minerai ?
Moi, je suis boulanger. Je suis le boulanger de Pounirisson et je fabrique du pain biologique uniquement. Voilà, j'essaie de nourrir les gens. Donc peut-être que j'extrais du minerai pour leur donner la force de créer des histoires.
Donc au-dessus de vos têtes, hein, je ne vous ai pas menti, la Cailloutèque, la bibliothèque à cailloux constituée par John Barney Ferguson. Ce sont des échantillons, des cailloux, des nombrils du monde qu'il a pu parcourir. Alors avec un étiquetage toujours, cette rigueur scientifique, donc on voit bien des petites étiquettes hein, avec des numéros. Donc à chaque fois, il y a la date, le numéro d'inventaire, et puis une couleur d'étiquette aussi en fonction de la position des nombrils, à savoir que les rouges sont les nombrils en dessous de l'équateur, les nombrils bleus sont les nombrils insulaires et les nombrils verts, les nombrils continentaux. Voilà, donc un petit peu pour ce classement, Robert a mis beaucoup de temps hein, à déplacer toute la cailloutèque de John. Son deuxième travail, ça a été de continuer la fabrication de machines à tarabuster pour essayer toujours de faire sortir des histoires du minerai. Alors, est-ce que vous voyez ? Vous pouvez n'hésiter pas à vous rapprocher hein, si vous ne voyez pas tous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine ?
Noyade.
Noyade, effectivement.
C'est pour noyer le poisson.
Merci. Super. C'est presque pour noyer le poisson. Cette machine, c'est la trempette. Alors, c'est la trempette. Hein. On trempe bien le minerai de compte. On espère que quand il va reprendre son souffle, il y a peut-être une histoire à nous raconter, mais on n'a pas entendu d'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine ? Des idées ?
Exorcisme.
Exactement. C'est une machine à exorciser le minerai de compte.
Ça
n'a pas marché. Peut-être qu'on va essayer avec la troisième, on aura peut-être un peu plus de chance. Alors, qu'est-ce que ça fait cette machine ?
Alors, moi, ce qui m'a intéressé en fait à Pounirisson, forcément, c'est mélanger le vrai et le faux. Moi, j'ai travaillé plutôt à l'origine en musée. Voilà, du côté de la conception d'exposition, donc, où la vérité est vraiment le plus important. Donc la véracité des faits, les faits historiques, les dates, l'écrit, surtout l'écrit dans les musées, et assez peu de place pour le témoignage oral. Et donc ça m'a intéressée par la suite de venir à Pounirisson, entretenir le vrai du faux. On raconte cette légende, cette histoire de Pounirisson à qui veut bien l'entendre et se laisser envahir par les mots, l'histoire et les mots.
L'histoire étrange. Bizarre, curieuse, amusante, particulièrement particulière, d'un dragon, un grand dragon vert. Se drape.
dragon-là tenait son rôle de dragon à la perfection. Compagnie. Parce qu'une princesse qui dort, ça n'a pas beaucoup de conversation, et de l'or bien moins encore. Et cette histoire pourrait s'arrêter là, ou continuer indéfiniment, avec ce vrai grand dragon vert, vivant au fond du fond d'une forêt profonde, gardant un trésor, crachant du feu, et n'ayant plus que les mouches pour toute compagnie. Car c'était là la vie bien ordinaire de ce vrai grand dragon vert. Côté du fond de la forêt profonde, là où les petits garçons s'aventurent, un petit garçon s'aventure. Ça n'est pas le petit Pousset, ça n'est pas le prince charmant, ça n'est pas Robin des Bois, c'est un petit gars, comme vous et moi. Et qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là? L'histoire ne le dit pas, des fois on est là, on sait pas pourquoi, et là, lui, il était là. Et que voit-il de loin? De la fumée! Et qu'entend-il de loin? Des rugissements! Chut! J'entends pas! Ça n'est pas un lion, non! Ça n'est pas un singe! Ça n'est pas un petit oiseau non plus. C'est un dragon! J'ai jamais vu de dragon! Et le petit garçon file, file, file à travers la forêt, entre les feuilles, sous les racines, derrière les écorces, et file, file, file aussi vite qu'un écureuil, monte jusqu'au plus haut de la plus haute branche du plus haut des arbres de la forêt et se retrouve nez à nez avec le monstre. Oh ! Quel animal phénoménal ! Le dragon, surpris d'avoir été surpris, personne ne s'était approché d'aussi près. Sous son nez, vous vous rendez compte ? Il bafouille, bredouille.
Que veux-tu ?
Toi ! Toi ! Et je veux jouer au ballon.
Au bas quoi ?
Au ballon.
Long ?
Rond.
Au baron ?
Dragon, dragon !
Oh, toi, mon petit bonhomme, je te vois venir. C'est une ruse. Ce que tu veux, c'est l'or et la princesse qui dort.
Oh, mais c'est pas ta princesse qui m'intéresse. C'est toi. Tu es si vrai, si grand, si dragon, si vert. À ces mots, le dragon ne se sent plus de joie. Ouvre de larges naseaux, fait quelques bulles et réfléchit.
C'est vrai, je suis grand, je suis vert. J'ai pas d'amis, juste quelques mouches. Une princesse qui se réveille jamais. Et de l'or qui dort.
Et ils se garderont bien tout seuls. Viens, dragon, partons, jouons.
Bon, t'as raison. Partons. Et à quoi joue-t-on ?
À que met-on dans mon corbillon ?
Un poisson ?
Un thon ?
Un tonton ?
Un pantalon ?
Un glaçon.
Un garçon.
Un pont.
Un pantalon.
Tu l'as déjà dit. Ah bon?
Nous voilà donc à l'heure solennelle des discours d'inauguration du jardin sonore.
Je voudrais saluer la présence d'un certain nombre de personnalités qui nous font l'honneur d'une apparition durant cette cérémonie officielle. Nous voudrons bien applaudir tout d'abord Monsieur le maire de Pougny-Risson, Guillaume Motard, qui est là. On distingue à la lumière qui émane de sa personne, bien naturellement. Vient d'arriver, et c'est pour ça que soudainement le soleil apparaît, une conseillère départementale, c'est Coralie Desnoux, que je salue ici. Voilà, je l'applaudis également, je l'applaudis. Évidemment, chacun pourra apprécier ô combien la présence importante du sénateur Morisset, Jean-Marie Morisset, apporte à cette journée. Nous l'applaudissons aussi chaleureusement. On a pu entreapercevoir, elle a dû s'absenter, Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres, que je vous demande d'applaudir aussi chaleureusement, même si elle ne nous entend pas. Mais nous terminerons cette bordée de remerciements de présence à l'intention de celui qui représente ici la communauté de communes Parthenay-Gâtine, François Gilbert. Il va, dans quelques instants, gravir ce rocher pour être à mes côtés. Je sollicite la présence par ici de monsieur le directeur général du Nombril du Monde, monsieur Yannick Jolin, qui, tel un jeune cabri, bondit sur le rocher. Bravo. Et je salue le président.
Le président qui préfère rester,
qui préfère rester sur la terre ferme. C'est le partage des tâches assez naturel entre un président et un directeur. Le directeur fait cabri, le président pas. Voilà. Yannick Jolin, est-ce que nous pourrions rappeler à l'ensemble des personnes ici très nombreuses réunies ce qui nous réunit, justement?
Ben oui, alors d'abord, merci de votre déplacement qui montre à quel point vous êtes sensible à l'amélioration du sort de notre humanité, parce que vous savez bien toutes et tous que beaucoup de choses ont commencé à Pougny-Risson, et peut-être la remise en ordre du monde qu'on peut espérer, vu l'état de délabrement qui nous incite actuellement à une espèce de déprime collective, et grâce, nous l'espérons, c'est pour ça, le constat est terrible. On croyait que le monde était carré, que le monde était solide, et depuis quelques mois, depuis quelques années, plus insidieusement, mais depuis quelques mois, ça se précise. Et en plus, chez nous, on a vraiment l'impression que c'est la fin d'un monde. Et nous, à Pougne, étant un des nombrils du monde, étant les dépositaires en plus de la réunion de tous ces nombrils du monde qui sont partout à l'œuvre et qui sont le symbole d'une vision du monde non pas carrée mais ronde, symbolique. Et si ça se trouve, si, parce qu'on nous parle beaucoup de la post-vérité depuis quelque temps, vous entendez ça partout, la post-vérité. Mais nous, on le sait bien à Pougne, que les histoires sont bien plus importantes que la vérité. Ça a toujours été. Les Hébreux ont réinventé leur histoire de monothéisme au 6e siècle, disant qu'ils étaient monothéistes depuis le 5700. François Ier a réinventé Marignan pour faire croire à tout le monde qu'il avait gagné alors qu'il avait perdu. Et les exemples sont nombreux. Ce sont des milliers d'exemples comme ça. Depuis toujours, les puissants réinventent leur histoire pour donner la légitimité à leurs descendants, pour que leurs femmes, souvent après, prennent le pouvoir après leur disparition. On le sait, ça! Et pourtant, qu'est-ce qu'on en a fait? Et c'est pour ça qu'on s'est dit que nous, il était absolument fondamental qu'on reprenne la main en faisant une journée mondiale des nombrils du monde, en invitant les délégations de tous les pays concernés à venir ici faire un premier défilé pour qu'enfin le monde retrouve cette chose importante qui est le sens de l'histoire, qui est le sens d'un récit que l'humanité pourrait enfin retrouver dans le sens qui irait pour le meilleur de nous-mêmes, qui est dans notre grande entreprise de dénombrilisation de l'humanité, quelque chose d'excessivement important, parce que si on veut que le nombril collectif reprenne sa place dans le cercle mondial de nos valeurs, eh bien il faut que les nombrils individuels se dégonflent.
Merci.
Ah, monsieur Calixte, quelle journée.
Écoutez, nous avons vécu des heures intenses, délicieuses. Empreintes d'une grande et vraie spiritualité, nous avons pu communier tous ensemble à la découverte de toutes ces nombrils très nombreux à travers le monde. Nous avons passé un moment délicieux.
Un moment délicieux.
Oui, vraiment.
Ça sera de plus en
beaucoup
plus.
D'ondes.
Oui, oh, très positif, tout ça. Et puis cette communauté humaine que nous avons formée pendant un bref instant a permis à chacun de poser son sac et de se libérer du poids du quotidien.
Mademoiselle, comment vous trouvez Monsieur Calixte de Nigremont ?
Extraordinaire, extraordinaire.
Il est formidable.
Ah, j'adore.
Et d'une grande beauté.
J'adore.
Physique.
Ah oui.
Elle me trouve d'une grande beauté physique.
Quelle classe.
Simple et très noble.
Et d'une grande beauté physique.
Et d'une grande beauté physique.
Pour quelqu'un qui a 23 ans.
Donc vous êtes de trois jeunes groupies, en fait, de Monsieur Calixte de Nigremont.
Tout à fait.
Vous le suivez partout en Europe, je crois.
Oui.
Oui.
Et puis la première, et pas qu'en Europe, hein, internationalement.
Ça doit vous coûter une fortune en déplacement, ça. Oui. Vous avez la carte jeune ?
Oui, heureusement. Oh, c'est voilà. La dernière année, alors j'en profite.
La carte jeune.
Je suis un peu leur One Direction à elle.
C'est beau de voir ce... C'est un gourou, quoi.
Ah oui,
pratiquement. Un guide spirituel. Oui, vous faites bien.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12,5 degrés. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. Oh, la vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Prochain jour du terme, je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Oh, je bois dès que j'ai des loisirs pour être saoul, pour ne plus. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Les choses se terminent maintenant.
Oui.
On va boire un coup là.
Oui, bah oui, forcément.
Très belle journée de ces remises de prix.
Ah bah
quand
oui,
même.
Ah bah oui, quand même, nombril d'or.
Émouvant.
Ah bah, hein. Absolument. Et je pense qu'on travaille fort pour l'humanité tout entière ici.
Oui, c'est ça. Alors, quelques petits mots pour cette manifestation. Quelle inspiration ça amène, quelle retombée il pourrait y avoir, surtout après une journée pareille.
C'est ce qu'on disait, c'est que tout d'un coup, que l'humanité prenne conscience que ce qui paraissait important dans le carré du monde, en fait, est important plutôt dans le rond, c'est-à-dire dans les récits.
Dans le rond,
on sait bien que les récits sont plus importants que la vérité, et qu'il y a un certain nombre de gens qui manipulent le reste de l'humanité avec ça. Nous, on est clair avec ça, on dit les récits font l'humanité, et les récits sont plus beaux que la vie.
Je crois que ça c'est ressorti très très clairement aujourd'hui. Je pense que la plupart des gens, les 2000, je crois,
200 000 personnes
qui étaient présentes, bien sûr. Applaudissant à tout va, enfin à tout rompre, bon, en sont extrêmement persuadés. Yannick Jolin, merci beaucoup pour cette journée splendide d'inauguration.
Je pense que c'est des moments inoubliables dans une, et justement dans une humanité en perdition, à la veille d'élections qui risquent d'être dangereuse, eh bien je crois que nous donnons un éclair de bonheur et d'espoir dans cette humanité qui pleure.
Ce 1er avril 2017 restera gravé dans tous les cœurs. Merci Yannick, je vous remercie. C'était bien.
Je suis pas fâchée qu'on soit parti, moi, parce que je t'avoue qu'à un moment j'ai eu un peu peur pour.
Pourquoi t'as eu peur de qui de.
T'y crois, toi.
J'ai vu des choses. J'ai ressenti des choses. J'ai discuté avec plein de gens.
Le minerai de. T'y crois, toi.
Bien sûr, écoute. Si t'en avais vu autant que moi au microscope. Je t'assure que vraiment là. Hérisson, c'est quelque chose, c'est très fort.
C'est les deux Sèvres, mais ça ressemble, hein. Sauf qu'il n'y a pas de brioche. Il n'y a pas de brioche vendéenne dans les deux Sèvres.